Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Les ministres des Finances du G7 ont proposé un impôt minimum mondial de 15% pour les plus grandes entreprises, un début de régulation fiscale internationale qui sera discuté au prochain G20. L'économiste Mathilde Lemoine va nous en expliquer les tenants et les aboutissants. Et les Français sont, paraît-il, de plus en plus nombreux à vouloir quitter les grandes villes. Pierre Ververen, l'auteur de L'impasse de la métropolisation, va nous dire pourquoi. Et enfin, vous êtes-vous jamais demandé quelle est la proportion de femmes présentes dans vos films préférés? Y a-t-il autant de rôles féminins que de rôles masculins? Ou moins? Ou plus? Antoine Mazière va enfin nous donner la réponse. Bonjour Mathilde Lemoine.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste du groupe Edmond de Rothschild. Alors, à l'initiative de Joe Biden, le G7 s'est engagé sur le principe d'un futur impôt minimum mondial sur les sociétés. Alors, la question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi maintenant l'Europe aurait pu le faire depuis longtemps? Elle a préféré laisser des pays comme l'Irlande ou le Luxembourg devenir des paradis fiscaux à l'usage des multinationales de la tech. Apple, Google, Microsoft ou Pfizer sont basés en Irlande, Amazon au Luxembourg. Alors pourquoi la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie emboîtent-elles maintenant le pas des États-Unis à votre avis?
Deux réponses, une conjoncturelle, une structurelle. Une conjoncturelle, c'est vrai qu'avec la crise Covid, il y a eu un montant de dépenses publiques extrêmement important avec une augmentation des dettes publiques. Donc je pense que l'idée aussi de mettre un peu d'ordre dans les recettes fiscales tombe à point nommé. Et puis une réponse plus structurelle, c'est que les travaux de l'OCDE en la matière ont été quand même considérables et laissent penser qu'un accord allait intervenir à un moment donné. Donc c'est vrai que Joe Biden a signifié que les États-Unis étaient désormais d'accord, mais ça fait longtemps que l'OCDE travaille sur cette question. Donc je pense qu'il y a une combinaison de facteurs, comme toujours, c'est jamais un seul. Qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis ont signifié leur... Ils ne sont pas à l'initiative, ils ont signifié leur accord.
Voilà.
Ce qui est différent.
Oui, mais enfin, ça laisse la porte ouverte à la suite.
Oui.
Alors, un impôt minimal serait donc, qui serait donc de 15% et ne toucherait que les entreprises faisant plus de 20 milliards d'euros de bénéfices, ce qui exclut Amazon ou Uber ou Airbnb. Pourquoi 15%? On parlait de 28% à un moment, puis de 21%, c'est ce que Biden demandait il y a encore peu. Maintenant, c'est 15%, ce qui est 2,5 seulement au-dessus d'Irlande.
C'est plus facile de trouver un accord sur un plus petit dénominateur commun parce que forcément, vous avez moins de pays qui sont contre. Hein. Donc, je pense que c'est une logique de négociation. Mais il y a deux aspects dans l'accord, en tout cas, qui a été annoncé par le G7. C'est qu'il y a l'aspect taux minimum. Il y a un autre aspect qui est aussi très intéressant pour les grands États, en particulier l'Europe, les grands États de l'Europe et les États-Unis. C'est le fait qu'il y aurait une taxation là où les entreprises réalisent leurs profits. Donc, c'est vraiment les deux aspects qu'il faut mettre en avant et pas seulement le taux minimum, me semble-t-il.
On reviendra sur le deuxième aspect qui est effectivement très important, mais ces 2,5 de différence entre le taux minimum et le taux pratiqué en Irlande, par exemple, ces 2,5 de différence, ils seront payés par Google, par Microsoft ou par Pfizer dans leur pays d'origine, aux États-Unis.
Si l'Irlande laisse son taux à 12,5, parce que l'objectif, c'est qu'elle relève à 15%.
Voilà.
C'est l'objectif de l'accord sur le taux minimum.
Mais au cas où, l'argent, la différence, ça va aux États-Unis. Au fond, la France récupérera de l'argent sur ses propres multinationales, Air Liquide, L'Oréal, LVMH, qui répondent, ces trois entreprises répondent aux critères.
Hein, exactement.
Également.
Et il y a des évaluations.
Chaque pays va taxer davantage ses propres multinationales. Au fond, on ne va pas taxer les multinationales des autres.
Exactement. Et il y a des évaluations qui sont faites. Ça pourrait rapporter à peu près, toutes choses égales par ailleurs, 48 milliards d'euros à l'Union européenne et 41 milliards de dollars aux États-Unis environ.
Et on dit en France, les avis divergent, hein, entre 1 et 9 milliards en France, plus probablement 4 milliards.
Alors, encore une fois, ça dépend de l'attitude des pays comme l'Irlande. Est-ce qu'ils vont relever
leur taux
et eux-mêmes garder justement cette potentielle hausse de recettes fiscales ou pas?
Oui,
parce qu'on est quand même dans un sujet, il faut expliquer aussi pourquoi c'est les petits pays plutôt qui ont un taux d'imposition plus faible, c'est que c'est lié à la taille du pays. C'est que l'explication macroéconomique est que quand un pays est petit, en fait, il peut baisser son taux pour avoir plus de volume de recettes fiscales, ce que ne peut pas faire un grand pays. Parce que si un grand pays baisse son taux, en fait, pour ses entreprises PME nationales, il y en a tellement qu'il est désavantagé, si j'explique de cette façon. Donc, en fait, c'est pour ça que souvent, ce sont les petits pays qui ont des taux d'impôt faibles. Et il y a un deuxième élément qui est important à avoir en tête, c'est que le taux affiché ne veut rien dire. Parce qu'en fait, chaque pays, après, a des exceptions
au paiement
voilà, de l'impôt sur les sociétés. On pense à des choses très vertueuses comme l'impôt, le crédit d'impôt pour la recherche. Donc là, tout le monde trouve ça favorable. Mais il y en a d'autres pour les intérêts d'emprunt. Enfin, il y en a plein. Et bref, généralement, que ce soit dans les grands pays comme la France ou l'Allemagne, mais aussi dans le petit pays, le taux effectif d'impôt sur les sociétés est deux fois inférieur à celui affiché en moyenne.
Mais justement, on s'est demandé si les multinationales qui savaient que l'OCDE travaillait sur un projet d'impôt comme ça, si elles n'ont pas, au fond, hâté l'arrivée de ces 15% qui, au fond, ne sont pas très, très... C'est pas assassin, hein, 15%, et qu'au fond, ça leur irait très bien. Ça permettrait, par exemple, de se débarrasser de la taxe sur les entreprises numériques qu'il y a en France, des choses comme
exactement.
Ça.
Exactement. C'est vrai que ça intervient aussi à un moment où il y a quand même une pression sur les entreprises en termes de responsabilité sociale et environnementale qui est un peu plus forte qu'il y a une dizaine d'années. Il y a une pression des investisseurs financiers aussi, hein, puisque les clients, les particuliers aussi demandent de plus en plus de transparence sur des règles fiscales et éthiques. Les multinationales qui représentent à peu près un tiers de la production mondiale ont intérêt à montrer qu'elles jouent le jeu aussi. Sinon, voilà. Elles trouvent moins d'investisseurs. Enfin, il y a quand même un début de punition, entre guillemets, à celles qui ne respectent pas ces règles-là.
Et en fait, s'entendre sur ces 15%, c'est quand même mieux que les 21% ou les 28% qu'elles risquaient d'avoir un jour ou l'autre.
Effectivement, mais toute la subtilité, encore une fois, va être de savoir sur quelle base taxable. Parce que c'est là où, après, vous allez pouvoir diminuer finalement l'impôt que vous payez.
Mais on peut dire aussi qu'on s'est entendu sur 15% et puis dans 2-3 ans, peut-être qu'on s'entendra sur un peu plus.
Oui, sûrement, c'est le sens
de
l'histoire.
En
général, c'est le sens de l'histoire parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face, notamment encore une fois pour les grands pays qui sont dans une situation particulière, donc les États-Unis, l'Allemagne, la France, c'est des recettes fiscales supplémentaires et donc ils vont mettre en face aussi des dépenses publics supplémentaires. Donc, quelles dépenses ? Est-ce que c'est la transition financière, la transition écologique ou pas ? Est-ce que les citoyens ensuite vont demander des comptes ? Parce qu'un des vertus pour les économistes de la concurrence fiscale, il y en a une, c'est le vote avec les pieds. C'est-à-dire qu'on considère que normalement, quand vous êtes mobile, vous allez choisir le mixte entre le niveau d'imposition et le niveau de dépenses publiques et vous allez aller là où c'est le plus efficace. Alors, le résultat, c'est que ça ne se passe jamais comme ça et qu'au final, on taxe les moins mobiles, c'est-à-dire les salariés peu qualifiés qui sont dans une situation où ils ne peuvent pas choisir là où ils veulent habiter. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un accord quand même, un consensus sur le fait que la concurrence fiscale a plutôt des désavantages que des avantages.
On fait une pause, Mathilde Lemoine, et après, on va évoquer justement ce deuxième volet de l'accord qui est très important lui aussi. Nous sommes avec l'économiste Mathilde Lemoine qui veut bien nous renseigner sur ce futur impôt minimum mondial sur les sociétés, ce début de régulation mondiale, de régulation fiscale mondiale. Alors l'autre volet de l'accord vise une meilleure répartition de l'impôt payé par les multinationales du numérique entre le pays où elles ont établi leur siège et où elles payent des impôts, en Irlande ou au Luxembourg, pas beaucoup mais un peu quand même, et les pays où se trouvent véritablement leurs clients, c'est-à-dire en France, en Allemagne ou en Italie. Alors comment cet argent va-t-il être réparti ?
Alors toute la difficulté, ça va être de bien évaluer les bénéfices que font les entreprises dans les pays où elles font effectivement ces bénéfices. Parce qu'aujourd'hui, elles ont une activité, elles transfèrent leurs bénéfices donc dans des pays à faible fiscalité. Donc il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Donc est-ce que c'est sur le chiffre d'affaires réalisé dans le pays ? Est-ce que c'est sur la consommation ? C'est là où, encore une fois, il y a plusieurs propositions qui sont sur la table. Et ce qui est très important, c'est que ça va permettre de rétablir une forme de saine concurrence entre justement les acteurs locaux, les grands groupes nationaux qui, eux, sont soumis à une fiscalité totale du pays.
Oui, et l'AFTAC, par exemple,
voilà,
en France,
la cité,
par rapport à Amazon.
Exactement. Et donc, ces groupes internationaux. Alors, on cite beaucoup les GAFA, mais les études qu'on a faites montrent que l'autre secteur qui est particulièrement visé, c'est la santé. c'est les industries pharmaceutiques. Et d'ailleurs, Janet Yellen, donc, qui dirige le Trésor américain, cite les GAFA, mais aussi les entreprises de santé. Donc, vous voyez, ce n'est pas exclusivement réservé à ceux qui sont dans notre quotidien.
Alors, combien ça va rapporter à la France? Entre 400 millions et 1 milliard par an, dit Bruno Le Maire. Et comme on va supprimer la taxe nationale sur le chiffre d'affaires des entreprises du numérique, qui a rapporté 366 millions d'euros en 2020, ça ne va pas faire une énorme différence, hein, on va dire.
Non, mais tout est bon à prendre quand on voit l'importance du déficit. Et le deuxième élément aussi, c'est que il y a évidemment cette fiscalité faible, ce taux faible irlandais qu'on cite souvent de 12,5%. On sait qu'en France et en Allemagne, on a un taux qui est plus élevé. Mais quand on regarde ce que rapporte cet impôt sur les sociétés en pourcentage du PIB, en pourcentage de la valeur ajoutée nationale, c'est beaucoup plus important en Irlande qu'en France et en Allemagne.
Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas d'industrie, ils n'ont pas...
Oui, mais donc la part de cet impôt sur les sociétés dans le PIB, c'est environ 3% dans l'ensemble des pays de l'OCDE, mais ça n'est que 2% en France et en Allemagne. Et donc, ça veut bien dire que le taux ne fait rien. C'est-à-dire, c'est pas parce que la France et l'Allemagne ont un taux d'imposition élevé qu'ils ont des recettes fiscales suffisantes. Et l'autre apport aussi de ce deuxième volet très important, c'est que l'impôt sur les sociétés est considéré par les économistes comme un bon impôt parce qu'il intervient à la fin du processus de production. Et donc, il ne modifie pas le comportement des entrepreneurs. Après, libre au gouvernement de dire « moi, je veux que l'entrepreneur soit plus vert, plus social, etc. » Et donc, il fait des incitations. Mais si on veut rapporter de l'argent pour financer des dépenses publiques sans forcément modifier votre comportement d'entrepreneur, on dit que l'impôt sur les sociétés est d'un des meilleurs impôts. Et donc, je trouve qu'il y a quand même un intérêt à ce que les grands pays, donc typiquement la France, l'Allemagne et les États-Unis, pour lesquels l'impôt sur les sociétés rapporte très très peu, se pose la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'est justement parce qu'ils proposent trop de niches fiscales ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas pu réussir à taxer ces GAFA ou ces industries pharmaceutiques là où elles font leurs bénéfices.
Mathilde Moine, vous insistez aussi sur le fait que là on est parti, au moins parti, pour réguler la fiscalité mondiale, mais pas du tout la vaccination mondiale contre le Covid. Les pays du G7 auraient intérêt, non, à se servir de leur puissance économique et le fait qu'ils sont les plus gros producteurs de vaccins au monde pour favoriser l'immunité collective, non?
Oui, ce qui me frappe, c'est qu'on a des déclarations désordonnées. Alors, on n'en avait aucune. Petit à petit, on a quand même les États-Unis qui disent qu'ils vont fournir des vaccins, la France,
oui,
l'Europe,
pour
etc.
Ils n'en exportent que 2%.
Voilà,
hein,
donc, mais tout ça
est... beaucoup,
voilà.
Mais...
est tout à fait désordonné. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même un sujet d'immunité collective. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en Asie, on a une recrudescence des cas et des taux de vaccination qui sont très, très faibles. On pense à l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, etc. Même le Japon, même s'ils accélèrent les choses. Et il me semble que si on veut que la pérennité du redémarrage de la croissance mondiale soit vraiment... il faut qu'il y ait une déclaration de l'ensemble des pays du G20 en faveur d'une immunité collective, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En Asie, il n'y a que Singapour qui s'est déclaré en faveur de cette immunité collective. Donc, il y a vraiment une inégalité entre les pays développés et les pays émergents et les pays asiatiques qui fait que ça maintient une incertitude extrêmement forte. Alors, c'est très positif.
L'économie n'aime pas l'incertitude.
Pas du tout. C'est très positif, cette première régulation mondiale sur l'imposition. Ça veut dire qu'enfin, le multilatéral, la coordination mondiale, l'idée de bien public mondial prend corps. Donc, c'est très positif. Mais encore une fois, l'urgence, c'est aussi cette santé. Et là, l'Europe s'est mise dans une situation impossible puisqu'ils ne veulent pas entendre parler. Alors, c'est très timide, mais ils ne veulent pas entendre parler d'une vraie levée des droits des brevets temporaires en cas de pandémie qui est pourtant prévue par l'OMC. Et donc, on a l'impression que c'est au compte-gouttes. On va donner tel temps de dose aux États. Pourquoi ? Ils perdent leur libre arbitre. Enfin, moi, je trouve ça très choquant. Et je trouve que là-dessus, on a beaucoup régressé. Et donc, c'est très bien aussi que le G20 puisse prendre position en la matière de façon beaucoup plus ferme et définitive.
Le G20, ce sera au début du mois de juillet. Hein, c'est là que... c'est la suite du feuilleton. On va voir ce qu'il en ressort. Merci Mathilde Lemoine d'être passée par Europe 1 pour nous expliquer tout ça. On fait une pause. On se retrouve dans un instant avec Pierre Vermeren qui publie L'impasse de la métropolisation.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Jean Vermeuren, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Depuis la pandémie de Covid, beaucoup d'urbains songent à déménager à la campagne ou dans une petite ville. Vous publiez L'impasse de la métropolisation aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat. La métropolisation, pour vous, c'est un phénomène récent, hein. C'est différent de l'urbanisation. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça ?
L'urbanisation en France, c'est un phénomène ancien qui a été assez lent, il est vrai. Puisqu'il faut attendre les années 30 ou le début des années 30 pour qu'un Français sur deux habite en ville. Mais dans les années 70 du XXe siècle, on est parvenu à un taux d'urbanisation qui est à peu près le même qu'aujourd'hui. En revanche, la métropolisation, c'est un phénomène plus récent qui remonte à une quarantaine d'années. Enfin, c'est durant les 40 dernières années que la chose s'est construite en France. Et ça consiste en, non pas en le phénomène urbain qu'on connaît bien, mais par la concentration dans un nombre réduit de grandes villes, de très grandes villes, une douzaine selon moi, ce qu'on appelle les métropoles.
En France.
Non pas au sens juridique du terme. En France, absolument.
Une douzaine, Bordeaux,
phénomène
Rennes,
qu'on retrouve,
Marseille, Nantes, Rennes, Toulouse,
Bordeaux,
Lille.
Paris. Phénomène qu'on retrouve, c'est vrai, il est aux États-Unis et en Angleterre un peu. Donc c'est la concentration dans les mêmes lieux, non pas des habitants de la France, des Français, mais d'un certain type de Français, notamment les classes les plus aisées, qui avant étaient réparties sur le territoire et qui se sont concentrées dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers, à l'occasion d'un changement de structure économique, pour faire vite, désindustrialisation, abandon partiel de l'économie de production et création d'une économie tertiaire très de haut niveau, enfin parfois de service aussi à la personne. Voilà, donc les classes populaires traditionnellement urbaines, ouvrières, n'avaient plus leur place en ville et sont parties.
Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une impasse d'après vous, puisque c'est le titre de votre livre, hein, L'impasse de la métropolisation ?
Bah écoutez, les craquements se font sentir un peu partout depuis le début des années 2000. Cette nouvelle structuration à la fois de l'économie, de la société et du territoire a pas mal d'inconvénients. Alors des inconvénients sociaux, hein, puisque les classes sociales françaises maintenant vivent séparées les unes des autres. Inconvénients écologiques, parce que la dissociation entre les lieux de production et les lieux de consommation, ça entraîne des flux de camions, des flux d'énergie, des flux de voitures très considérables, à la fois en France et au niveau international, puisqu'on fait venir les produits d'Asie, pour beaucoup, ou du reste de l'Europe, même pour les produits agricoles. Et puis, inconvénient aussi politique, hein, crise de la démocratie, crise de la citoyenneté, puisque au fond on se rend compte que le modèle métropolitain s'accompagne d'une envolée de l'absentéisme électoral, de la radicalisation de l'électorat, et bien sûr dans ce paysage il faut replacer ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, hein, en 2018-2019, puisqu'il y a vraiment eu la révolte des Français chassés des métropoles qui sont venus dire leur fête aux métropolitains. Ça n'a rien à voir avec les révoltes ou les révolutions du 19e siècle, hein, quand c'était les propres ouvriers parisiens qui protestaient dans leur ville, qui faisaient une révolution dans leur ville. Cette fois-ci, on a vu les gens de l'extérieur venus dire que la situation était vraiment insupportable et que la dissociation justement entre la production de richesses dans les métropoles et un chômage de masse et des difficultés économiques très importantes dans la France périphérique créent des tensions sociales et politiques rarement vues en France.
Pierre Vermeuren, vous racontez que en 1968, par exemple, il y avait encore 1 800 000 ouvriers dans Paris et la petite couronne. Hein. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 400 000. Ils ont été remplacés par qui ? Parce que s'il y a eu éviction des classes moyennes et populaires, comme vous le racontez dans votre livre, ils ont été remplacés.
Bien sûr. Alors d'abord, ils ont été remplacés par les cadres. Hein, Paris, qui était une grande ville ouvrière, est devenue une ville de cadres. Presque un Parisien sur deux appartient à cette catégorie sociale supérieure. Ensuite, ils ont été remplacés par ce que j'appelle dans le livre des populations nomades. Alors nomades, évidemment, entendons-nous bien, hein, c'est une image. Les étudiants qui viennent et qui repartent ou parfois s'installent, les touristes qui ne font que passer mais qui sont à soi seuls une très grande activité économique, en tout cas jusqu'au Covid, et bien sûr le peuplement issu de l'immigration qui est, je dirais, la main-d'œuvre fragile par rapport à l'ancienne classe ouvrière ou même aux classes moyennes, qui sont réfugiés dans les banlieues ou ailleurs, la main-d'œuvre immigrée, souvent issue d'Afrique, voire d'Asie, et qui sert de petite main finalement à cette économie de service d'un nouveau style, que ce soit dans les commerces, dans la restauration, dans les services à la personne, le bâtiment, etc. Donc on a effectivement des classes populaires, c'est pour ça que les journalistes parlent toujours des quartiers populaires, mais qui sont devenus pour l'essentiel dans les métropoles des quartiers d'immigration. D'ailleurs, l'immigration, c'est consubstantiellement lié au phénomène métropolitain. Pratiquement un immigré sur deux Français habite en Île-de-France, immigré récent, voire immigré au sens propre, et immigré issu de l'immigration aussi. Donc c'est un phénomène très métropolitain, avec bien sûr des inconvénients, parce qu'il y a le tertiaire légal, il y a le tertiaire illégal, ce qu'on appelle le travail au noir, et puis il y a le tertiaire, parfois les activités illicites, comme le trafic de drogue qu'on connaît bien malheureusement. Et tout ça fonctionne, fabrique un nouvel ensemble, mais évidemment ça dysfonctionne aussi.
Pierre Vermeren, ne quittez pas, je reviens vers vous dans un instant avec de nouvelles questions. Nous sommes de retour avec Pierre Vermeren qui publie L'impasse de la métropolisation aux éditions Gallimard. Ça provoque aussi un gaspillage spatial et énergétique considérable, cet empilement de gens les uns sur les autres dans les métropoles. En même temps, sous couvert de lutte contre la pollution, en fermant à la circulation automobile les voies rapides, les voies sur berge ou le périphérique, en piétonnisant des quartiers entiers, vous dites que c'est au fond une façon pour ces grandes métropoles, d'isoler ses habitants du reste de la population, de les préserver des intrus, hormis les touristes, bien entendu, qui, eux, sont les bienvenus. En fait, on fabrique des villes-musées.
Ça, c'est la tendance la plus récente. Le phénomène de métropolisation s'est accompagné ou a amplifié la banlieuisation, j'aime pas ce mot, mais de la France. Vous avez des millions, vous avez presque entre 15 et 20 millions de Français qui habitent dans la France pavillonnaire, autour de toutes les villes et notamment des métropoles, donc sur des surfaces absolument considérables qui ont dévoré les ceintures maraîchères qu'il y avait autour des villes, qui ont dévoré les villégiatures, etc., les parcs, les forêts, bon. Donc ça, c'est un phénomène d'étalement urbain considérable. Pratiquement, depuis 40 ans que la métropolisation est faite, le bâti en France, ce qu'on appelle les surfaces artificialisées, ont été multipliées par 4. C'est gigantesque. Et effectivement, au cœur des métropoles, on assiste à l'inverse à un phénomène de sauvegarde, notamment des paysages urbains, des bâtiments historiques qui sont rénovés, il y a des créations aussi qui sont faites, mais pour une population de plus en plus aisée qui veut vivre de plus en plus tranquillement, et effectivement dans ce paysage-là, voir arriver des artisans, des familles, des gens qui ont des vieilles voitures, des bouchons, c'est de moins en moins supporté. C'est ce qui explique en grande partie le vote écolo, qui est un phénomène métropolitain lors des dernières élections, mais qui est aussi en soi un phénomène un peu étrange, parce que, voire conservateur, parce que finalement, au point où on en est, ces urbains des grandes métropoles sont satisfaits, mais ils ne voudraient pas que le système ni change, ni se dégrade. Et donc, il y a cette tentation, effectivement, de la protection.
Pierre Vermeren, la ville n'a guère encore été le lieu du travail. Au fond, ces métropoles sont devenues des lieux festifs, où, dites-vous, les loisirs sont bruyants et agrégatifs.
Oui, parce que si vous voulez, quand vous avez des millions d'étudiants ou de touristes ou de jeunes urbains aisés qui vivent tous au même endroit, qui ont un rayon d'action assez limité, finalement, dans le centre des très grandes villes, que dans le même temps, les gens qui se lèvent tôt le matin, comme selon l'expression convenue, c'est-à-dire les ouvriers, les concierges, etc., ont disparu ou sont partis, que les personnes âgées sont invitées à aller partir plus loin, notamment celles des classes populaires, parce que le prix du logement s'est envolé, il a été multiplié par 10 à Paris en 40 ans, alors que les salaires n'ont été multipliés que par 3. Bordeaux, en 20 ans, le prix de l'immobilier a été multiplié par 3. Donc les classes populaires sont parties. C'est pour ça que souvent elles font beaucoup de voitures pour rallier la métropole le matin. Eh bien, la ville, elle devient une sorte de lieu d'animation permanent, un lieu festif où les nuits sont de plus en plus longues. Bon, certes, à Paris, il y a le métro, c'est un peu compliqué, mais enfin, dans les grandes villes de province, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, c'est le cas. Et du coup, oui, la ville devient un espace festif pour les différentes minorités, pour la jeunesse, pour et d'ailleurs, il y a une municipalisation des activités, une prise en charge des loisirs par les pouvoirs publics, très connue, hein, toutes sortes de nuits festives qui sont inventées ou de carnaval d'un nouveau genre. Et ça plaît au tourisme, évidemment. Pendant l'année, vous avez les étudiants qui font l'animation. Pendant l'été, vous avez les touristes, mais cela, évidemment, n'est plus. On comprend pourquoi le lieu de production que furent ces grandes villes, hein, Paris était une grande ville industrielle, Bordeaux un grand port, etc. Tout ça, c'est fini parce que ça a été relégué ailleurs et la ville devient un musée festif. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Philippe Muret disait la même chose il y a 30 ans, mais maintenant, je crois qu'on est au bout d'un phénomène qu'on a vu arriver depuis les années 90.
Merci Pierre Vermeren. L'impasse de la métropolisation, c'est le titre de votre essai qui vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat. On va s'intéresser à la présence des femmes sur les écrans de cinéma. Alors, à votre avis, c'est quelle proportion entre les hommes et les femmes? Un tiers, deux tiers, moitié-moitié, un quart, trois quarts? On aura la réponse juste après ça.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Bonjour Antoine Mazière.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Grâce à un article en ligne paru dans Humanities and Social Sciences Communications, sorti le 7 juin, donc dans quelque chose de très sérieux, on a appris donc qu'une équipe du centre Marc Bloch à Berlin, dont vous faites partie, s'est livrée à une étude sur la présence des femmes sur les écrans de cinéma. Vous avez étudié plus de 3500 films sortis entre 1985 et 2019 et vous avez calculé le nombre de fois où il y a des femmes par rapport au nombre d'hommes, et cela grâce à l'intelligence artificielle. Et vous avez trouvé que seulement un tiers des rôles, 34% je crois exactement, sont tenus par des femmes et deux tiers par des hommes. Là, les inégalités deviennent concrètes. Hein.
Ah oui, tout à fait. Alors, de quelle inégalité on parle? On ne sait pas encore dans quelle mesure on peut parler de toute forme d'inégalité de genre. Mais pour ce qui est de l'apparition de visages d'hommes et de femmes à l'écran, on est assez sûr de notre mesure et de notre protocole. Pour dire que ce chiffre entre 85 et 2019 tient la route pour parler des cinémas grand public et aussi on a pu caractériser l'évolution hein, de ce chiffre sur cette période.
Alors comment ça s'est passé? Comment vous avez procédé exactement? J'ai parlé de l'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui reconnaît si c'est un visage d'homme ou un visage de femme, qui les compte en fait, il compte la présence des hommes et des femmes à l'écran.
Alors on a acquis 3000, un peu plus de 3500 films, comme vous le mentionnez, et on a extrait une image toutes les 2 secondes pour tous ces films. Donc c'est environ plus de 12 millions d'images en total. Et chaque image a été traitée par 2 algorithmes, un de détection de visage et un deuxième d'inférence du genre de ce visage, donc masculin ou féminin. Et après, on a pu rassembler ça, des moyennes, enfin des ratios de présence de visages féminins par film, et ensuite faire une moyenne de tout ça au niveau global, et aussi par tranche de temps, etc. etc.
Et les films que vous avez choisis, alors sont des films populaires hein.
Oui, on a pris deux manières pour sélectionner ces films. D'une part, il fallait qu'ils soient très partagés sur les réseaux pair à pair, qui est un moyen de mesurer une popularité aujourd'hui. Donc c'est les films influents de 2018 aujourd'hui, c'est les films influents des années 80 aujourd'hui, etc. Mais c'est quand même en général des films populaires. On trouve rarement des petits films d'auteurs sur ce genre de réseaux, du moins sur les réseaux publics comme BitTorrent et autres. Et ça, c'était un premier filtre qui nous a donné 13 500 films. Et ensuite, on a regardé sur la base de données IMDb, qui est un des plus gros sites de référencement d'informations sur les films, les acteurs et le cinéma en général. Et on a exigé que chaque film ait au moins un certain nombre de données, notamment données de budget, de recettes, données démographiques sur quelle est la note laissée par les utilisateurs, quels sont ses utilisateurs, hommes, femmes, combien sont-ils, etc., etc., et quelques autres métadonnées.
Donc pour être bien sûr que ces films sont véritablement
Voilà, et là
ancrés
encore, c'est des données, oui, qui
ancrés
sont...
dans notre culture. Alors
Tout
quand
à
on
fait.
dit seulement un tiers, 34% exactement des rôles sont tenus par des femmes, on se dit oh là là, c'est vraiment pas beaucoup. Il faut quand même dire qu'il y a du progrès, hein. C'était
Oui.
un quart, enfin 27% dans les années 90. Vous vous rendez compte, un quart seulement des rôles étaient tenus par des femmes dans les années 90. On est parvenu à 45% entre 2014 et 2019. Et il y a même aujourd'hui 10% des films qui dépassent 60% de rôles féminins alors qu'il n'y en avait aucun en 2014. Alors tout ça, ça fait une moyenne de 34%, mais il y a un sacré progrès quand même.
Oui, tout à fait. Et d'autre part, ce qu'on a pu observer, c'est que la distribution de ces valeurs, donc le spectre exploré à chaque tranche de temps dans le ratio homme, femme, homme à l'écran, s'élargit. C'est-à-dire que il semble que les films produits, en plus d'en moyenne avoir plus de femmes à l'écran, explore un spectre plus large, c'est-à-dire que la distribution s'affaisse d'une certaine manière, le spectre du ratio exploré est plus large, et donc les gens ont tendance à faire a priori des films qui explorent plus de films avec beaucoup de femmes, avec moyennement de femmes, avec beaucoup d'hommes, etc., etc. Donc en plus d'une meilleure représentation des femmes à l'écran, enfin d'une meilleure représentativité des femmes à l'écran, on a aussi une diversification des scénarios, enfin des mises en scène.
Est-ce que la présence féminine dépend du genre du film? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moins de femmes dans les films de guerre, ça paraît être logique, ou dans les films policiers, et est-ce qu'il y en a plus dans les films d'horreur?
Oui, tout à fait. C'est une des variables qui a le mieux répondu à notre mesure, c'est-à-dire le ratio de visage féminin à l'écran. Et comme vous venez de le mentionner, l'ordre est film d'horreur, puis film dans l'ordre décroissant, donc en premier lieu, les films qui ont le plus de visages de femmes qui apparaissent sont les films d'horreur, puis les romances, les comédies, puis les mystères, les drames. Et là, on arrive à la moitié à peu près science-fiction, aventure, et les derniers de la liste sont les thrillers, les films d'action et les films de crimes, de policiers.
Mais alors les films d'horreur, c'est tout simplement parce qu'en général, les victimes des monstres, ce sont des femmes.
J'imagine.
C'est pas forcément une bonne nouvelle, non.
Pas vraiment, non, puisque
Que les
ça
femmes y
l'est.
soient plus nombreuses qu'ailleurs.
Exactement, je pense que c'est vraiment ce rôle de victime à peu près, ce genre de choses. Cela dit, je suis loin d'être un spécialiste de ces questions, donc je me pousserai pas à une interprétation trop solide.
Et
Mais effectivement, je suis pas sûr que ce soit.
vous insistez d'ailleurs sur le fait que c'est une étude sur la représentativité et pas sur la représentation. Vous comptez qu'il y a plus de femmes dans les films d'horreur, mais au fond, vous ne savez pas pourquoi. On peut juste faire des suppositions, hein. Vous ne savez pas non plus ce que font les femmes dans les films, si elles jouent des bimbos ou des prix Nobel.
Tout à fait. Et on peut très bien imaginer qu'il y ait eu un certain encouragement au sein des sociétés de production de films à avoir plus de femmes à l'écran sans pour autant remettre en cause des critiques fondamentales de fait à la manière dont les femmes sont représentées à l'écran. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé, faute d'expertise sur ce champ de connaissances, qui est par ailleurs très bien traité par toute une littérature en études de genre, en études du cinéma. Mais on n'a pas réussi encore à faire le lien entre ce qu'on a fait nous, qui est une étude, comme vous le dites, de représentativité, de quelque chose d'assez facilement objectivable, et d'autres éléments qui sont plus difficiles à formaliser dans le cadre d'une étude avec des algorithmes, etc.
Alors cette étude est quand même formidable parce qu'elle nous donne véritablement des résultats objectifs. Là, on est obligé de se dire, ben voilà, dans les années, jusque dans les années 90, il y avait seulement un quart des personnages à l'écran dans les films qui étaient des femmes. C'est quand même assez fascinant, hein. Personne ne s'en apercevait à ce moment-là. Est-ce que ça a une influence sur le nombre de spectateurs aujourd'hui? Puisque vous l'avez dit, c'est sur les spectateurs d'aujourd'hui que c'est leur culture, la culture d'aujourd'hui que vous avez étudiée. Est-ce que ça a une influence sur le nombre de spectateurs et sur leur sexe?
Alors, on a été très étonné par un résultat négatif sur cette question, c'est-à-dire qu'on avait donc récupéré tout un tas de métadonnées sur IMDb, sur le succès du film, l'argent qui était investi et des tas d'autres variables, et rien ne corrèle significativement avec le ratio
Voilà, il peut y
de
avoir
visage
beaucoup
de
de femmes
femmes
à
qui apparaît à
l'écran,
l'écran.
c'est pas pour autant qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont aller regarder ce film, ni même l'aimer.
Voilà, il y a une petite exception qui est ni ce n'est pas la valeur que donnent les femmes au film en votant pour ce film sur IMDb, ce n'est pas le nombre de femmes qui votent pour ce film en votant sur IMDb, mais c'est la part des femmes parmi les gens qui votent pour ce film qui est la seule variable qui corrèle significativement avec notre ratio, comme
Donc plus il y a
si
des
c'était.
femmes sur l'écran, plus les femmes se sentent concernées. Elles vont donner une bonne ou une mauvaise note au film, mais elles se sentent concernées par le film, au fond.
Tout à fait, c'est l'interprétation la plus probable à laquelle on est parvenu sur cette corrélation. Ouais.
Merci Antoine Mazière. Je renvoie à votre article en ligne hein, dans Humanities and Social Sciences Communication. C'est sorti le 7 juin. Il y a tous les détails de cette étude qui est totalement nouvelle. Grâce à l'intelligence artificielle, on va apprendre des sacrés trucs hein, dans les années à venir.
Sans aucun doute. Un grand merci de m'avoir invité.
Europe 1.
Cette arrivée demain est terminée. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée. On se retrouve samedi prochain à suivre le grand rendez-vous européen CNews Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Votre invité, Mickaël, c'est Marlène Schiappa.
Marlène Schiappa, ministre déléguée donc à la citoyenneté auprès du ministère de l'Intérieur, macroniste des premiers jours. Elle repart en campagne avec un objectif, rester au pouvoir.
Bonne émission.